Les colloques du Collège de France.
Donc, à aborder le dernier thème de la soirée, comment passer de l'expérimentation à la politique éducative. Et le petit documentaire qu'on vient de voir nous montre qu'il y a certains pays où on est passé à la politique éducative avant de faire de l'expérimentation. C'était El Sistema, hein, pour des raisons évidemment contextuelles très particulières. Donc, nous avons pensé, pour éviter de perdre du temps, que je ne présente pas tous les intervenants, mais qu'ils se présentent eux-mêmes. Ils seront bien plus forts pour le faire que moi. Et l'ordre que nous avons pensé pour être le plus logique structurellement est de commencer par Maria Magno, qui a été très impliquée dans la création d'El Sistema Europe et en Italie avec Claudio Abbado pour des cellules d'apprentissage de la musique. Et je présenterai ensuite les autres
intervenants. Merci. Je pense qu'en fait, cette intervention de transition était très importante pour nous parce que Cárdenas nous a rappelé l'élément humaniste. Nous avons énormément parlé de science, un peu moins de culture. Et j'aimerais beaucoup la prochaine fois avoir également le point de vue de l'économie et de la culture, parce qu'on nous a rappelé qu'Abreu est également économiste. Sistema Europe est un réseau. Le projet Sistema est répandu dans plus de 100 pays au monde et le réseau européen produit des projets communs et surtout fait retrouver non seulement l'échange entre tous les opérateurs, les enseignants, les chefs de projet, mais aussi des jeunes. On va se retrouver à Pesaro, capitale italienne de la culture, en juillet pour le camp d'été. Et on essaie toujours de démontrer que la musique est importante en soi, mais également au-delà de la musique. Et c'est ce qu'on a également écouté aujourd'hui. En fait, on a cette tension entre la qualité évoquée par Cárdenas et l'accès, et le fait d'impliquer vraiment tous les enfants sans choix, presque totalitaire. Donc, ce n'est pas une méthode, c'est une stratégie, c'est une approche. Et donc, on a parlé également de tout ce qui concerne la motivation des enfants, ce qui attrait les enfants et les familles pour rester dans le projet. C'est une inquiétude pour nous de voir que le projet ne peut pas avoir de fin. Je crois que c'est un dilemme également pour la Fondation Vareille en ce moment. Le mot-clé est aussi celui de l'excellence. J'ai observé hier le travail de la Fondation dans trois classes, dans trois groupes, pas trois classes, dans une école à Garges, au nord de Paris, et j'ai trouvé que vraiment la poursuite de l'excellence était dans les enseignants, et que par l'exemple qu'ils donnent aux enfants, ceci n'a pas besoin d'être expliqué, il est vécu, ils sont proches les uns des autres dans cela. L'autre élément que j'ai trouvé important dans la tension qu'a évoqué Cárdenas, c'est la tension entre l'éthique, l'esthétique, la discipline, la liberté, le choix, c'est-à-dire tout cela crée une dynamique constante. Et dans la musique, il y a énormément de contradictions, nous les avons également évoquées aujourd'hui, les enjeux multiples que nous avons dans l'éducation musicale par la musique, les musiciens qui sont tellement proches et impliqués, comme Claudia Abbado qui a été évoquée, Gustavo Dudamel, je pense qu'ils seraient très intéressés par les implications scientifiques, mais leur claim, leur souci, leur enjeu principal est que la valeur, autre mot clé qu'on a écouté, de la musique en soi. Alors, essayons de ne pas oublier que cette écoute, surtout maintenant, avec un monde qui est vraiment tiré par la violence, nous avons écouté, également évoqué Daniel Barenboim, il y a un anniversaire important cette année, 1824-2024, les 200 ans de la 9e symphonie de Beethoven, qui a été choisie comme hymne européen, n'est-ce pas? Donc, n'oublions pas qu'il y a l'enjeu direct, l'enjeu indirect, tout ce que la musique peut apporter sur les autres choses, mais en soi. Et je pense que la clé de voûte de cette écoute, de ce respect qui est au fond le critère principal qui a poussé Abreu, le Sistema va avoir 50 ans l'année prochaine, à créer le projet. Et ce qui maintient, je voudrais conclure sur une considération de nouveau humanitaire, c'est une économie extraordinaire qui soutient le projet dans ces 100 pays au monde, une très grande générosité, parce que le Sistema n'exploite pas son travail. Il est à la disposition de tout le monde, il est complètement ouvert, tout le monde peut et doit l'adapter, et on ne demande rien en échange que le respect de la qualité et la diffusion de cette écoute profondément respectueuse, attentive et maintenant paisible. Merci, et je suis très intéressée par les interventions qui suivront. Merci.
Je donne la parole à Lou Eisenberg, qui va se présenter.
Merci beaucoup et merci pour cette invitation. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui sur ce beau sujet. Donc, je suis Lou Eisenberg, je suis chef de projet pour un programme qui s'appelle IDE, Innovation, Données et Expérimentation en Éducation. Et on a au sein du JPAL Europe, qui est un laboratoire de recherche international qui conduit des évaluations d'impact, un intérêt évidemment pour la musique, mais aussi pour beaucoup d'autres sujets en lien avec l'éducation. Et on conduit ce projet, alors pas seul, puisqu'on est aussi accompagné de notre partenaire, le département statistique du ministère, la DEP, et tout un ensemble de partenaires scientifiques, de membres du consortium, dont le CEA, dont Sciences Po et dont l'Université de Grenoble-Alpes, en plus de l'École d'économie de Paris. Donc tout ça pour vous dire un petit peu d'où je vous parle. Et en fait, dans le cadre de ce programme IDE et au JPAL Europe et au JPAL en général, depuis plus de 20 ans, on conduit des évaluations d'impact sur plein de projets qui tiennent à l'éducation. Et donc on a pu aussi suivre des expérimentations du type de celles qu'on a entendues aujourd'hui tout au long de l'après-midi en particulier, comme Un violon dans mon école ou le projet El Sistema, qui ont cette envie de pouvoir évaluer finalement l'efficacité de ce qu'elles mettent en œuvre. Et donc, on a tiré finalement un certain nombre de leçons, en tout cas de choses qu'on a pu apprendre au travers de ces accompagnements, de ces expérimentations, pour répondre à la question qui nous est posée, qui est comment on fait pour passer finalement à l'échelle quand un programme a fait ses preuves. Et donc, évidemment, le premier point à souligner, c'est que tous les programmes ne font pas leurs preuves, ne produisent pas de données probantes. Nous, on conduit des évaluations d'impact randomisées. C'est une méthode qui permet d'isoler l'impact causal des programmes et des interventions. Et donc la première chose, c'est de se dire, ok, est-ce que dans un premier temps le programme a fait ses preuves? Si c'est bien le cas, on s'aperçoit qu'en fait il y a tout un ensemble de facteurs pour qu'un passage à l'échelle, une généralisation, puisse ou pas être réussie. Il y a des cas dans lesquels on met en œuvre un programme à plus petite échelle, on s'aperçoit que les résultats suite à une évaluation sont positifs, et puis on passe à une échelle un peu plus grande, et là tout d'un coup les effets positifs disparaissent. Donc il faut un petit peu comprendre finalement peut-être que les ingrédients actifs qu'on avait mis en œuvre dans le projet originel ne se retrouvent pas dans le projet qui a été passé à l'échelle. Donc il y a des points d'attention à garder en tête. Mais parfois, on est même dans des cas de figure dans lesquels on a des expérimentations qui ont été évaluées rigoureusement, d'abord à petite échelle, ensuite à moyenne échelle, ensuite à grande échelle. Et on se pose la question de l'appropriation par les pouvoirs publics de ce type d'expérimentation qui ont fait leurs preuves et qui pour autant ne sont pas nécessairement mises en œuvre en termes de politique publique. Donc il y a plein d'exemples, mais je vais vous en donner un qui est relativement récent. C'est une étude qui a été conduite par Marc Gurgan, qui est économiste et ses co-auteurs, qui porte sur un projet d'éducation à la citoyenneté et qui a été mis en œuvre en France, en Espagne et en Grèce et qui a fait l'objet de résultats positifs. Il avait été initialement porté par la DGESCO, donc au ministère de l'Éducation nationale. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où ce programme, par exemple, qui a fait ses preuves, n'est pas implémenté plus globalement en France. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi? Il y a plein d'hypothèses, il n'y a pas de réponse fixe, mais il peut y avoir des sujets qui ont trait à la fois à la stabilité des équipes au sein des administrations. Mais je pense qu'il y a un sujet qui, à mon sens, est vraiment phare, qui est le sujet de l'acculturation, de la culture, de l'expérimentation et de l'évaluation au sein de nos administrations et de nos politiques publiques pour faire que finalement les projets qui sont effectivement évalués puissent être saisis par les pouvoirs publics, mais même qu'en amont, on puisse avoir cette démarche finalement d'apprendre en faisant, donc en pilotant certains projets d'abord à petite échelle et en passant progressivement à plus grande échelle. On a des cas où ça a été particulièrement réussi. Au JPAL, on a accompagné un programme qui s'appelle TARL, Teaching at the Right Level, enseigner au bon niveau, et qui a été mis en œuvre partout en Afrique et partout en Inde. Et il a vraiment suivi ce processus itératif où on commence à petite échelle, On a des échecs, on améliore, on itère et puis on passe à une échelle plus importante. Et il y a eu des partenariats vraiment très fructueux avec différents gouvernements en Inde et en Afrique. Et donc je pense qu'un des leviers aussi pour répondre à la question qui nous est posée, de levier de passage à l'échelle réussie, c'est aussi cette dimension partenariale, mais cette approche aussi itérative d'avancer en faisant des petits pas qui est absolument importante. Et là, je pense que je vais aussi passer la balle à Axel, mais je pense qu'il y a un aspect important d'institutionnalisation, c'est-à-dire que ces processus de prise en considération de l'évaluation, de l'expérimentation dans la décision politique, ils puissent être finalement internalisés au sein même des administrations, des ministères, pour que ça puisse vraiment nourrir le processus d'élaboration des politiques publiques. Et donc, dans un certain nombre de cas, notamment quand il y a un vrai leadership politique, quand il y a du temps. Donc c'est là aussi que l'institutionnalisation elle est importante, que ce soit en mettant en place un partenariat, en créant une unité interne au sein des ministères, qu'on peut vraiment faire que dans la durée, on apprend de la recherche et on apprend en faisant avec la recherche et on peut nourrir les politiques publiques de la recherche. Merci.
Merci bien.
Oui, merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Je vais juste commencer en disant que l'institution que je représente, la DEP, qui est donc le service statistique ministériel de l'éducation nationale, n'a pas de rôle prescriptif en termes de politique éducative. Mais je vais vous expliquer ce que nous, on peut faire pour soutenir la recherche en éducation, les expérimentations en éducation et peut-être permettre la production de résultats qui peuvent amener à réfléchir aux politiques éducatives. Donc la DEP, elle a comme première mission de produire des statistiques, des études objectives et de qualité sur le système éducatif. Elle contribue ainsi au débat public, elle aide aussi au pilotage de la politique éducative au niveau national et aussi au niveau plus local, académique notamment. Et puis elle a également un rôle en matière d'évaluation du système éducatif dans toutes ses dimensions. Elle a un rôle important pour la recherche puisqu'elle produit de la donnée. Il faut imaginer aujourd'hui dans les systèmes d'information statistique de l'ADEP, nous avons des informations sur les 60 000 écoles et établissements scolaires, sur les 1,2 million de personnels et sur les 13 millions d'élèves et d'apprentis. Donc c'est évidemment une ressource extrêmement précieuse pour conduire des expérimentations à moindre coût. Notre travail, c'est donc de construire des sources statistiques qui vont être utiles pour mener nos missions, mais également pour appuyer la recherche. On le sait pas forcément, mais ce travail de production statistique, il est extrêmement lourd. Nos données, elles s'appuient très souvent sur des fichiers de gestion qui ne sont pas construits à des fins de statistiques publiques ou à des fins de recherche. Donc ça implique, du côté des équipes à l'ADEP, un travail de production de fichiers, de documentation, etc. Voilà, ce qui est assez conséquent, mais ce qui fait partie de nos missions premières, en fait, en termes de production. On obéit aussi aux critères de qualité dans la statistique publique, qui sont définis notamment par les règles de la statistique européenne en la matière. Et on joue également un rôle en matière d'animation de la recherche en éducation à différents niveaux. On va soutenir la recherche en mettant à disposition des données. On va aussi accompagner des équipes de recherche qui réfléchissent à des déploiements d'expérimentation. On va financer aussi des travaux de recherche. On a une chaire de recherche qu'on a créée avec la Fondation Ardian et l'École d'économie de Paris pour financer des travaux de doctorants notamment. Et ce que je vous disais, c'est que par les accès aux données, aux sources administratives, on permet aux chercheurs de déployer des expérimentations à moindre coût, à la fois pour eux, mais aussi pour le terrain. Quand on cherche à évaluer des effets, et Julie l'a très bien montré via la présentation de l'évaluation d'un violon dans mon école, il y a des enjeux de collecte de données, des collectes ad hoc pour mesurer des choses qui n'existent pas dans les systèmes d'information. Et donc si on peut, par exemple, mettre à disposition des données sur les compétences des élèves grâce aux évaluations nationales qui sont aujourd'hui généralisées, ça permet notamment à des chercheurs de mesurer des effets à court terme, à moyen terme, à long terme, et donc de disposer d'arguments également très convaincants sur des éléments probants d'efficacité de dispositifs. On a un rôle aussi, je pense, important pour essayer de produire des résultats de recherche dans des conditions qu'on va appeler un peu écologiques.
Donc des expérimentations menées à grande échelle dans des territoires qui soient suffisamment diversifiés, ce qui permet de produire des résultats d'expérimentation qui vont avoir ce que les économistes vont appeler de la validité externe, c'est-à-dire qu'on peut transposer dans un contexte autre que le contexte de l'expérimentation. Et donc nous, on a justement des données qui sont très importantes pour les chercheurs, pour leur permettre de situer en fait leurs travaux par rapport à une référence nationale, ce qui est quand même important si on veut utiliser des résultats d'expérimentation pour peut-être penser des politiques éducatives. Au-delà de cette question d'accès et de, donc d'abord de production statistique, il y a quand même un enjeu qui rejoint un peu ce que Lou a évoqué en matière de diffusion, d'appropriation des connaissances scientifiques. Selon la méthodologie qu'on déploie, on peut trouver des résultats différents. Donc c'est pas forcément évident pour les acteurs de l'éducation de se saisir de cette littérature. Il faut amener finalement à articuler, ordonner ce que sont différentes briques de connaissances scientifiques sur un même sujet. Et donc là, il y a un travail aussi d'accompagnement des acteurs auxquels on peut tous, je pense, participer d'une manière ou d'une autre. Donc nous, on a aussi un rôle au sein de l'ADEP en termes de transfert de la connaissance auprès du décideur. Et puis juste pour terminer mon propos, vous donner un exemple d'une expérimentation qui s'appelait Énergie Jeune, qui a été développée par une association du même nom et qui cherchait à développer la persévérance scolaire à l'école. Alors pas avec des violons, mais par des interventions où on s'appuyait en fait sur les apports de la science, de la science comportementale, sur le fait que l'intelligence n'est pas une compétence fixe, c'est quelque chose qui peut être entraîné, qui peut développer, qui n'est pas fixé par son histoire, par exemple. Donc c'est quelque chose qui a été évalué avec le soutien de l'ADEP par une équipe de recherche. On a suivi comme ça des élèves témoins test dans le cadre d'un protocole randomisé pendant leur scolarité de la 6e à la 3e. C'était un dispositif assez léger, assez conforme à ce qui se met en place dans la littérature internationale. Donc concrètement, c'est 3 interventions d'une heure chaque année en scolarité de collège. Ça a montré des effets, alors pas des effets très forts, mais des effets néanmoins sur les apprentissages scolaires des élèves et la réussite au brevet. Mais très rapidement, c'est posé finalement une autre question scientifique. Est-ce que si on forme des enseignants à l'apprentissage de ces compétences qu'on va appeler psychosociales, est-ce que finalement on peut être plus efficace et est-ce que ça permet de développer davantage ces compétences chez les élèves et peut-être d'avoir des effets plus forts? Et en partenariat avec les académies de Versailles et de Paris, c'est monté finalement une nouvelle expérimentation avec un enjeu d'informer la politique locale, la politique éducative en matière de formation des enseignants, et a été mis en place une nouvelle expérimentation où ont été tirés au sort des enseignants de CP qui ont été formés à l'enseignement de ces compétences psychosociales et d'autres enseignants qui, eux, constituent le groupe témoin. Donc les analyses sont en cours, mais voilà, je trouvais que c'était un exemple assez intéressant de montrer le lien qui peut se faire entre des équipes de recherche et des acteurs qui sont partie prenante de la mise en place de la politique éducative. Merci.
Merci. Donc on va suivre l'ordre avec Olivier Van Beek qui va parler sans doute du projet Lyon dans mon école aussi.
Voilà, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être dire ce qu'est un directeur académique des services de l'éducation nationale. En gros, je suis adjoint du recteur de l'Académie de Versailles en l'espèce et j'ai en charge la déclinaison de la politique nationale et de la stratégie académique à l'échelle de l'éducation nationale, à l'échelle d'un département, le beau département du Val-d'Oise. Je dis ça pour monsieur le sénateur que je salue au passage. Le Val-d'Oise accueille à peu près 300 000 élèves, donc c'est plutôt un gros département en termes de scolarité. C'est un département assez atypique parce que c'est un des rares départements de France métropolitaine qui est en croissance démographique. Un département jeune, 41% de la population a moins de 30 ans. Les Val-d'Oisiens ont l'habitude de dire que c'est le département le plus jeune. Je ne sais pas si la Seine-Saint-Denis partagerait ce constat. En tous les cas, c'est le deuxième département le plus pauvre d'Île-de-France. On a un peu moins de 18% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Et c'est un département très contrasté, puisque nous avons à la fois une partie rurale dans le Vexin, une partie urbaine défavorisée limitrophe de la Seine-Saint-Denis, Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, Villiers-le-Bel, peut-être des noms de villes qui parlent à certains, et puis ensuite des poches plus privilégiées, Enghien-les-Bains, Lille-Adam, et donc une terre de contraste et un enjeu très fort en termes d'égalité des chances, évidemment, à l'échelle de ce territoire. C'est aussi un territoire riche en innovation pédagogique, je le dis d'autant plus facilement que j'y suis pour rien, c'est la situation que j'ai trouvée en arrivant dans ce département. Et parmi ces innovations pédagogiques, moi j'ai eu le plaisir de pouvoir accompagner modestement un projet qui était déjà bien avancé, celui d'un violon dans mon école qui vous a déjà été présenté au cours de la journée. Et du coup, pour préparer cette table ronde, j'ai essayé d'identifier ce qui me semblait être les conditions, les réussites de cette expérimentation à l'échelle du département. J'aurais pu le formuler autrement, mais c'est comment la Fondation Vareil, pour ne pas dire Pierre et Hélène, ont-ils réussi cet exploit d'expérimenter un dispositif qui concerne 6000 élèves dans le département, plus de 70 écoles. Et je crois premièrement que les conditions de la réussite, c'est tout d'abord partir de valeurs communes qui font le socle partagé par les communautés éducatives. Ces valeurs, en premier lieu, ce sont celles d'égalité des chances, hein, puisque c'est un programme qui s'adresse prioritairement à nos élèves les plus défavorisés. Donc ça, évidemment, ça parle au monde enseignant, mais c'est un programme qui repose sur l'excellence, ça a été évoqué tout à l'heure, et qui permet de tirer les élèves vers le haut, évidemment, d'ouvrir des horizons auxquels les élèves et les familles ne se seraient pas forcément autorisés. Moi, j'ai en tête une visite d'école où une maman d'élève nous dit « Oh bah, notre fils, maintenant, nous parle de Mozart et de Vivaldi, on n'a jamais écouté de musique classique, alors du coup, on est tous maintenant un peu obligés d'en écouter. » Bon, c'est peut-être toujours mieux que les répétitions de violon à la maison, je ne sais pas. Et donc, des valeurs communes, et puis, dans ces valeurs, en écoutant là, les premiers intervenants, je me dis aussi que ça fait écho, évidemment, l'apprentissage de la musique à la discipline, au travail nécessaire à travers les apprentissages, et peut-être, je ne veux pas faire le vieux machin, mais un peu des valeurs qu'on ne retrouve pas toujours à l'heure actuelle portées à une échelle plus large de la société. Deuxièmement, une expérimentation qui est au service des apprentissages fondamentaux, ça c'est très très important, puisque l'apprentissage du violon, et c'est un des enjeux à travers la question du transfert de compétences, hein, comment les compétences des élèves acquises au moment de l'apprentissage du violon peuvent être transférées dans l'apprentissage de la langue ou des mathématiques. Et du coup, comme cette dimension au service des apprentissages fondamentaux était au cœur du projet, ça ne pouvait parler qu'aux enseignants. Et d'ailleurs, je trouve ce qui est assez remarquable dans ce projet et presque un peu culotté au départ, c'était de décliner cette action sur temps scolaire et sur les temps de cours. Et ce qui renforce évidemment la nécessité de l'ancrer fortement aux apprentissages fondamentaux, puisque vous le savez bien, pour un enseignant, le temps de cours est précieux. Et je le dis parce qu'à l'heure actuelle, je suis en train de revoir un petit peu ce qui peut se faire en éducation prioritaire dans le département, puisque nous ne sommes pas, complètement détaché d'une problématique courante, à savoir des expérimentations, des interventions un peu déconnectées justement des priorités nationales parfois, enfin, on pourrait l'analyser comme ça, et surtout, et c'est ça qui est remarquable dans le projet aussi, c'est qu'on ne consomme pas une activité et on inscrit vraiment cette expérimentation dans une démarche à la fois de professionnalisation des enseignants. Alors, il ne s'agit pas de transformer les enseignants en professeurs de violon, mais nous, on accompagne à l'échelle du département, modestement, nos professeurs des écoles pour qu'ils puissent vraiment travailler cette question du transfert des compétences. Donc ça me semble être un ingrédient important de réussite du projet. Et ensuite, peut-être avoir identifié nos limites. C'est-à-dire que dans le cadre de la passation du dispositif auprès des pouvoirs publics, puisque c'est la volonté initiale et annoncée depuis toujours de la Fondation, c'est de reconnaître nos limites. C'est-à-dire qu'on a essayé nous-mêmes de recruter des professeurs de violon au mois d'août. On n'a pas été forcément très bons. Et c'est de se dire qu'effectivement, là, on a besoin de construire un partenariat très étroit avec les collectivités territoriales, les conservatoires, par exemple, municipaux, qui ont ce savoir-faire là. Et puis, évidemment, il y a toute une dimension du projet qui ne pourra pas être portée par l'éducation nationale. Je pense à la maintenance des instruments. Et peut-être le dernier point, évidemment très important, c'est le portage local, que ce soit par les élus locaux, par les inspecteurs de circonscription, la DSDEN, les directeurs d'école. Mais dès lors que les ingrédients précités sont réunis, voilà, je pense qu'il n'y a pas de difficulté, et c'est ce que prouve le dispositif Un violon dans mon école, pas de difficulté à ce que les équipes se l'approprient, et très peu, et en témoigne le peu d'écoles qui, in fine, souhaitent renoncer au dispositif, il n'y en a pas eu jusqu'alors. Donc c'est quand même un signe important. Voilà en quelques mots ce que je peux dire sur une approche peut-être un peu plus de terrain, même si le terrain d'Adazen est quand même plus relatif.
Merci. Et pour finir ce rapide tour de table, Jean-Michel Blanquer, on vous donne la parole. Tout le monde vous connaît, mais on ne sait pas ce que vous allez dire.
Bon, ça vaut mieux que l'inverse peut-être, mais en tout cas, le merci de l'invitation. Je suis très, très heureux d'être là, très heureux d'entendre tout ce que je viens d'entendre et très heureux de voir ce projet consacré par un tel événement, consacré scientifiquement, mais consacré même au-delà des enjeux scientifiques par l'adhésion, je pense, qui est représentée par le nombre que vous êtes aujourd'hui et les acteurs divers que vous êtes. Donc si je suis là, c'est d'abord pour dire que moi aussi j'ai fait et je fais et je ferai partie des soutiens, parce que je suis extrêmement convaincu, et que finalement peut-être la question centrale posée aujourd'hui, c'est bien sûr celle des bases scientifiques de tout cela, des preuves, des éléments qui nous tiennent à cœur, mais qui désormais, je le dis évidemment sous toute réserve et sous d'éventuelles critiques, mais désormais me semble relativement avéré et démontré, et que donc le sujet, c'est la montée à l'échelle, c'est la pérennité, c'est le déploiement grâce à ces éléments de preuve. Alors évidemment, j'aimerais en parler d'abord au titre de ce que ça illustre, et ça a été un petit peu dit avant, et puis ensuite je voudrais parler de la chose en soi. D'abord, au titre de ce que ça illustre, on vient de l'entendre, c'est quand même la traduction d'une démarche qui est celle qu'on peut souhaiter à l'éducation nationale, c'est-à-dire d'une démarche d'expérimentation, de démonstration, et ensuite, autant que possible, de déploiement. Mais avec toute une série de problèmes qui se posent et qui ne sont pas propres à ce projet, d'abord des enjeux de méthode initialement, bien sûr, des enjeux d'acceptabilité, j'imagine qu'il en a été question auparavant, et puis ensuite, les enjeux de pérennité et de montée à l'échelle, qui, évidemment, rencontrent des problèmes dont il faut comprendre qu'ils sont en partie justifiés. C'est-à-dire que il n'y aurait pas d'un côté des idées magnifiques et de l'autre des forces de résistance aux idées magnifiques. C'est évidemment plus compliqué que ça. D'abord, il faut toujours avoir à l'idée que l'éducation nationale peut parfois être comme un berceau sur lequel trop de fées se penchent. Autrement dit, il y a tellement de bonnes volontés, tellement de bonnes idées, qu'à la fin, le berceau tombe. Et nous pourrions faire 50 colloques sur 50 très bonnes idées pour l'éducation nationale. Et je ne dis pas ça du tout pour invalider ni la bonne idée d'aujourd'hui, ni les autres. Mais pour qu'on soit conscient de, quand on est à grande échelle ensuite, eh bien, il y a une série de problèmes qui se posent qu'il faut bien avoir en tête. Et je connais des collèges d'éducation prioritaire où une accumulation de bonnes idées, une accumulation de bonnes intentions vis-à-vis des élèves conduisent à soustraire du temps à des choses fondamentales pour le progrès des élèves en question. Donc ils peuvent très bien, par exemple, sortir de troisième très épanouis, mais pas très solides sur leurs connaissances. Il faut évidemment avoir en tête cela. Donc il faut avoir une vision très systémique, très organisée, et une forme de réalisme sur justement les obstacles qu'on va rencontrer. Parce que moi, par exemple, je suis extrêmement convaincu du bienfait qu'il y aurait de la généralisation complète de ce dont nous parlons aujourd'hui, donc faut que ce soit clair, mais il faut qu'on soit quand même conscient de ce que je viens de dire pour réussir cette montée en puissance. Et puis il y a évidemment d'autres obstacles qui peuvent être de nature matérielle, qui peuvent être parfois de nature, on va dire, politique au sens large du terme. C'est-à-dire, il y a pour le coup des forces de résistance, des forces surtout de résistance au changement, des forces de résistance aux habitudes. Toutes ces choses sont bien connues et je ne vais pas les développer ici. Mais donc on a cet enjeu dans ce qui est discuté aujourd'hui, qui est à quelles conditions une expérimentation peut premièrement être démontrée, deuxièmement être suivie d'une montée à l'échelle et d'une pérennisation. Et je pense que c'est important de souligner, comme vous l'avez fait, que l'éducation nationale a quand même évolué sur ces questions. C'est-à-dire que la démarche consistant à avoir des expériences de ce type et ensuite à les prendre en compte sérieusement et à en faire quelque chose, elle existe. On ne part pas de zéro. Et donc là aussi, je voudrais un petit peu tordre le cou au cliché de la grande institution immobile, incapable de changer, incapable d'accepter l'innovation. C'est juste pas vrai. Et là, voilà, on a un inspecteur d'académie départementale qui, et vous le voyez, est tout sauf imperméable à l'innovation et va se demander comment concrètement faire les choses. Et donc, ça, c'est un élément d'optimisme. C'est-à-dire, on ne doit pas. C'est toujours une erreur de voir l'éducation nationale comme une forteresse imprenable. Parce qu'on internalise le problème et du coup, ça devient vrai. Quand je dis ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas des forces de résistance. Mais je dis, ne nous les exagérons pas. Quand on veut, on peut et ça arrive. Et l'éducation nationale a considérablement progressé. La représentante de l'ADEP, à très juste titre, a signalé à quel point l'ADEP fait un travail considérable en la matière et à quel point la France, pardon de le dire, mais dans les années qui viennent de passer, vient de monter en puissance sur ce sujet d'une manière considérable. Le fait qu'il y ait des évaluations de début d'année désormais en début de CP, en mi-CP, en début de CE1, en début de CM1, en début de 6e, en début de 4e et en début de seconde représente une masse de données et un outil exceptionnel, non seulement sur le plan strictement scientifique, puisqu'aujourd'hui, je dis ça sous votre contrôle, mais il y a des dizaines de chercheurs du monde entier qui sollicitent l'ADEP pour aller recueillir ce type de données, avoir des éléments qui permettent justement de travailler scientifiquement sur l'impact de telle ou telle chose sur l'éducation. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de pays qui aient aujourd'hui cet outil-là. Donc même d'un point de vue strictement scientifique, il y a un intérêt évident. Mais d'un point de vue très pratique, il y a un intérêt aussi, par exemple pour un projet comme celui-ci, en allant voir l'impact en début d'année sur les élèves qui ont vécu telle expérience par rapport à ceux qui ne l'ont pas vécu de ce qui s'est passé. Donc on a aujourd'hui une sorte de thermomètre permanent et régulier, récurrent, par rapport à tout type d'expérimentation, celle-ci comme une autre, et c'est évidemment extrêmement intéressant. Donc, pour conclure cette première partie, la France, loin d'être un pays handicapé par rapport à des expérimentations comme celle-là, est au contraire un pays qui a des atouts. Parce qu'il faut voir, premièrement, l'intérêt d'être un pays centralisé. Donc là, je casse aussi quelques moulins à vent. Mais en général, on se dit, ah, c'est atroce, institution immobile, immense, imprenable, etc. Mais si elle n'était pas un peu nationale comme elle l'est, si elle n'était pas un grand service public national, comment voulez-vous imaginer une montée à l'échelle? Nous sommes un des rares pays qui peut imaginer faire le violon à l'école pour toutes les classes. Et évidemment, il y a des inconvénients, on les connaît tous. C'est pas mon propos, je peux faire un colloque là-dessus aussi. Mais voyons les leviers, les avantages que l'on peut prendre d'être une institution, un service public national, et deuxièmement, d'avoir désormais cet acquis comme les évaluations de début d'année dont j'ai parlé et tout un tas d'autres éléments. Et puis en second lieu, je voudrais évidemment insister sur la chose en soi, c'est-à-dire un violon à l'école et l'importance de la musique dans le système éducatif. Et là, je voudrais dire qu'on est typiquement dans le cas où on doit faire rejoindre bon sens et bonne science. Le bon sens se donne immédiatement, la bonne science suppose un peu de temps. Le bon sens, pardon de l'invoquer, hein, parce que on est surtout là aujourd'hui, je crois, pour la bonne science, je dis ça sous le contrôle de Stanislas Dehaene et de tous les critères rigoureux qu'il met en œuvre, mais le bon sens, c'est de se dire qu'en gros, la musique, c'est plutôt bien que pas bien. Et même avant même d'avoir toute une série d'analyses et de démonstrations, Il y a des dictons comme la musique adoucit les mœurs ou tout simplement notre intuition qui fait qu'en général on a le sentiment que la musique c'est plutôt bon pour l'être humain que mauvais. Alors évidemment il faut se méfier du bon sens. Parfois en éducation il y a des idées de bon sens qui ne fonctionnent pas. Donc le bon sens ne suffit pas, mais il ne faut pas s'en priver non plus. Autrement dit, il est bon d'aller dans des directions qui nous paraissent valables, quitte ensuite à chercher la démonstration. C'est un peu ce qui s'est passé là. Pour ma part, et par rapport à l'argument que je donnais tout à l'heure, où je disais, au fond, il peut y avoir 50 bonnes idées pour l'éducation nationale, attention de ne pas trop les accumuler. Il faut donc faire des priorités. Et je dirais, non pas pour vous faire plaisir aujourd'hui, mais parce que j'y crois, et parce que j'ai montré que j'y croyais, que la musique peut être au premier rang de ces priorités. Pour toute une série de raisons que vous avez étudiées et que dans le détail desquelles je ne vais pas rentrer, d'abord les raisons, enfin, pour le coup, très démontrées scientifiquement, y compris au travers de l'imagerie cérébrale, au travers aussi de l'impact que l'on voit, et au travers du caractère très complet de ce que la musique peut apporter. Vous voyez, par exemple, pour donner un autre exemple d'une chose que j'ai beaucoup encouragée dans ma carrière de recteur comme dans mon expérience de ministre, le jeu d'échecs, par exemple, est extrêmement complet pour les enfants. Voilà typiquement quelque chose dont on peut souhaiter aussi la généralisation, parce que ça permet la concentration, parce que ça permet le respect de l'adversaire, parce que ça développe des concepts mathématiques. Eh bien, la musique, je crois que c'est ça, et encore un peu plus que ça. Et donc, ce n'est pas pour éliminer les jeux d'échecs, mais c'est pour dire que on a comme ça un certain nombre de choses qui sont plus complètes que d'autres. On peut avoir des idées qui parfois sont des idées très ciblées. Par exemple, en matière de santé, il y a des choses qui sont très positives. C'est comme ça qu'on a fait 30 minutes d'activité physique par jour. Et ça, c'est très très bien aussi. Mais ça va cibler, disons, un aspect. Là, on a avec la musique quelque chose qui couvre un très très large spectre, que ce soit sur le plan émotionnel ou sur le plan strictement, disons, cognitif. Et donc, c'est un point important. Et donc, sans trop développer, parce que je sens que j'ai utilisé mon temps de parole, je voudrais quand même revenir sur deux ou trois illustrations de cela. D'abord, en arrivant, je l'ai dit en 2017, c'est-à-dire que la musique était une priorité. Et donc, il y avait un discours ministériel sur cette question. Et j'aimerais que ça continue très fortement, c'est-à-dire qu'on dise la musique c'est central, c'est pas une matière marginale, c'est totalement central et ça peut avoir un impact sur toutes les autres matières. Deuxièmement, on a envoyé des symboles en la matière, qui là aussi mériteraient, mais je suis sûr que dans le Val d'Oise c'est le cas et ça le sera, d'être totalement poursuivi. Je pense à la rentrée en musique, hein, cette idée que ce serait drôlement bien que, et ça s'est passé en partie, que école, collège et lycée commencent le premier jour de l'année en musique, parce que ça donne le « là », si je puis dire, et ça permet de tout de suite donner une ambiance, d'avoir les enfants qui sourient plutôt que les avoir en train de pleurer le jour de la rentrée. Et donc ça, c'était, à mon avis, non seulement un symbole, mais un peu plus qu'un symbole. Bien sûr, la systématisation des chorales au collège a été un point important, leur très grande multiplication à l'école primaire aussi. Ce qui est très important aussi, c'est la mobilisation des acteurs de l'éducation nationale et autour de l'éducation nationale sur une telle question. D'où l'importance de la coopération avec le ministère de la Culture, avec les conservatoires, et là aussi de bien montrer que l'éducation nationale n'est pas une forteresse, mais bien un lieu avec lequel on coopère. Donc, sans aller plus loin, parce que là je crois que j'ai été très au-delà de ma gamme, je pense que un des résultats souhaitables aujourd'hui, semble-t-il, de ce qui va se passer, c'est non seulement de donner des preuves et de montrer comment elles se sont accumulées ces derniers temps, mais aussi qu'il en résulte un élan de volonté pour tout simplement la généralisation de cette expérimentation. Merci.
Merci beaucoup. Peut-être pour... On peut l'applaudir. Pour vous emboîter le pas et peut-être ouvrir le débat, je crois que, pour dire tout ce qui va bien en France, on a, avec les classes horaires aménagées musique, une longue expérience de programme adapté pour lequel on a déjà un savoir-faire, ce qu'on n'a pas dans d'autres domaines, par exemple le théâtre. Et on a en plus nos bases scientifiques qui montrent que l'application de ce type de démarche dans la politique éducative est tout à fait possible, parce qu'on a énormément de données. J'imagine que vous les avez, vous pourriez les exploiter, tel ou tel service, sur le fait qu'il est possible d'enlever des heures d'enseignement et de remplacer par des heures de musique. C'est les classes horaires aménagées musique, et ça réussit très bien aux élèves. Alors c'est vrai, on va me dire, c'était pour les élèves élites, mais vous le savez aussi, on a beaucoup mis maintenant les classes horaires aménagées musique dans les quartiers défavorisés. Donc ça, je pense que c'est un élément qui va en faveur de l'orientation de politique éducative vers des programmes de ce type-là, et je pense qu'on doit le prendre en compte. Et donc, je pense que si on exploitait toutes ces données, on verrait que ce que nous disons au niveau des laboratoires, avec des années d'expérience en classe horaire aménagée musique, ça marche bien, à grande échelle. La parole est à vous maintenant, au public. Maria, enfin tout le monde, on ouvre le temps puisque on a...
J'étais très, très stricte sur le timing, donc j'ai laissé tomber deux petites questions. Mais la première étant, est-ce qu'on n'est pas un peu trop sévère avec la musique comme matière? Est-ce qu'on demande l'impact de la géographie? Donc je pense que l'éducation forme certainement l'intellect, la culture, mais également le citoyen. Et quand je vois les enfants qui font dans une période très, très, très tôt, mais dans une période très limitée dans laquelle vous investissez, une sorte de preuve d'un côté de solidarité entre eux, qu'ils découvrent en learning by doing, en la faisant, et deuxièmement, une sorte de découverte que s'ils ne découvrent pas la bonne musique faite avec un niveau de qualité à ce moment-là, ils ne rattrapent pas. Donc c'est le reste, on le rattrape plus ou moins, ou on va sur Internet. Mais la pratique musicale collective, accessible, de qualité, on a une fenêtre et il faut l'utiliser. Donc, un très bel effet de cette recherche pour nous comme réseau de projets éducatifs accessibles et gratuits serait de comparer les études d'impact et de voir comment on peut optimiser de façon économique ce qu'on fait. Et ça, c'est un souhait que je voudrais avoir pour l'avenir en retrouvant les résultats de cette étude qu'on nous a mis aujourd'hui en perspective. Merci.
Stanislas, peut-être tu veux dire quelque chose.
Justement, je voulais vous poser une question, madame, et profiter de votre présence ici, parce que vous avez une connaissance très intime, évidemment, de El Sistema, mais vous connaissez aussi les situations françaises, avec, on a vu aujourd'hui, un violon dans mon école. Il y a d'autres initiatives, comme Demos, les orchestres à l'école. Quelle est votre vision de ces différentes actions? Est-ce que vous auriez des recommandations à faire pour le système français pour optimiser, si on peut dire, ces effets de...
Le dialogue entre elles, je pense que serait le premier pas pour optimiser, parce que ce qu'on souffre un peu de ne pas voir, c'est une sorte de tour d'ivoire des uns et des autres et de méfiance un petit peu. Et je ne vois pas de méfiance à l'égard d'un violon dans mon école. Donc peut-être qu'un violon dans mon école qui est très indépendant, est totalement indépendant, pourrait être un bon catalyseur de dialogue entre elles. Parce que en Italie, il y a la même situation, on est très nombreux et il y a beaucoup à faire, donc il y a vraiment la place pour tout le monde. Mais il y a des sortes d'endurcissement de position. Et si on pouvait être un peu plus complémentaire au lieu que rivaux, ce serait beaucoup mieux. Donc je pense que c'est un premier pas pour ce colloque.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.